Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'Au fil du temps, l'émission qui relie les générations et nous donne des conseils pour vieillir sereinement. En cette 38e émission, nous allons parler notamment de la transmission d'une génération à l'autre dans deux univers complètement différents, soit celui des arts et celui des affaires. Nous recevons en première partie Luciane Fabien de Métaconscience, que nous avions reçue il y a déjà à peu près un mois pour l'épisode sur la Saint-Valentin pour parler d'amour de soi. J'ai le grand plaisir d'avoir de nouveau Luciane avec moi en studio. Et nous rejoindrons en fait au téléphone l'associée de Luciane qui est Audrey Parent et qui est issue d'une génération plus jeune. Donc, ça sera sûrement très intéressant d'aborder comment elle profite de cette collaboration intergénérationnelle, ce qu'elle en retire toutes les deux et peut-être aussi les défis que cette collaboration intergénérationnelle peut entraîner. Je vais également demander à Luciane de nous parler davantage de son parcours professionnel parce qu'on avait un petit peu abordé le sujet lorsqu'elle était de passage parmi nous. Et Luciane a fait un virage à 360 degrés dans sa carrière et s'est réinventée pour parler de la fameuse expression consacrée à un âge où plusieurs rêvent de pré-retraite. Donc, sans doute que ce serait inspirant pour plusieurs de nos auditeurs. En deuxième partie, nous aborderons la transmission par une incursion dans l'univers de l'artiste Catherine Major, qui est elle-même issue d'une famille d'artistes. On sait notamment que son oncle est François Dompierre, compositeur, arrangeur, musicien, que sa mère a écrit pour elle et que c'est aujourd'hui son conjoint, Jeff Morand, qui a signé les paroles de son cinquième album, Carte Mère, qui a été lancé en mai, en pleine pandémie. Donc, Carte Mère pour l'expression Carte Mère sur un ordinateur, mais évidemment une référence évidente à la transmission familiale par le mot « mère ». Car Catherine Major est maman de 4 enfants. Donc, ce serait certainement intéressant de voir comment on peut cumuler un parcours de maman et un parcours d'artiste aussi riche. Alors, Catherine a certainement une drôle de vie. Alors, j'avais envie d'introduire cette 38e émission par la chanson « Drôle de vie » de Véronique Sanson.
Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête. Et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes, et viens avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Les uns des autres totems, tes drôles de poèmes, viens avec moi. Et si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, quand même du bout de ses doigts.
C'était Drôle de vie de Véronique Sanson. Et je peux vous dire qu'ici, en studio, c'est une pièce qui fait du bien au moral de tous. J'ai même vu notre Maurice National esquisser quelques pas de danse avec ses mains. Drôle de vie parce que nous allons parler en ce premier bloc avec notre invitée, Luciane Fabien, de métaconscience, d'un parcours en fait assez riche, d'un virage professionnel qu'elle a fait dans la cinquantaine. Donc, je l'invite, Luciane, à nous parler un petit peu du parcours de communicatrice dans des organisations, des villes, des entreprises, à aujourd'hui présidente d'une entreprise en pleine conscience. Donc, comment on fait un tel virage là, dans la cinquantaine, Luciane?
Eh bien, ce que je peux dire d'après ma barre, que c'était pas planifié, hein? pas du tout. Moi, j'avais une carrière de communicatrice plutôt en relations publiques, où est-ce que j'ai été fellow aussi. Je suis fellow de la Société canadienne de relations publiques. Je suis agréée en relations publiques. J'ai fait carrière plutôt dans le monde municipal, je vous dirais. Mais aussi, je cumulais aussi, j'étais bénévole. Et aussi, j'enseignais au programme de MBA pour cadre en exercice de l'UQAM.
Donc, une vie bien remplie, là.
Oui, oui, mais tu sais, j'aimais ça. L'enseignement, là, c'était une passion. Je me suis découvert là vraiment une passion. Et durant les 15 années où j'ai travaillé comme chargée de cours au programme de MBA pour cadre, je voyais les cadres vraiment stressé.
Ouais.
Mais vraiment, là, vraiment, vraiment stressé. Et moi, je suis une personne qui voit plutôt la vie avec le verre et toujours, s'il est à moitié, il est à moitié plein.
Mm-hmm.
Alors, je me disais, bon, les gens sont stressés, les gens ont des burn-out, j'en ai vu, mais moi, ça ne m'arriverait pas.
Mm-hmm.
Parce que j'ai une prédisposition positive. 2013, j'accepte un emploi, j'arrive dans un milieu de travail toxique.
Mm-hmm.
Ça a pris 3 mois, j'étais en burn-out.
Ouais.
Et là, tout ça pour dire que c'est le médecin, en me prescrivant 3... J'étais vraiment pas bien, là. Il me prescrit 3 sortes de médicaments. Moi, je suis tellement découragée de la vie parce que moi, dans la vie, là, je prends pas ça des médicaments.
Ouais.
Ça fait que... Et là, il me dit, ah, attendez un instant avant de partir. J'ai dit, vous allez me donner autre chose. Il tape sur son ordinateur et sur l'écran, il tourne son écran puis c'est marqué pleine conscience.
Oui, hein, il vous avait prescrit de la pleine conscience.
Il m'a prescrit de la pleine conscience. Puis là, j'ai dit, ben pourquoi de la pleine conscience? Parce qu'il dit, les pilules, vous sortez de là, vous n'en aurez plus besoin. Ça, c'est pour plus jamais que vous consultiez quelqu'un comme moi pour cette raison-là. Cette phrase-là a changé ma vie.
Oui, on en avait abordé justement cette prise de conscience-là.
Exactement.
Mais là, j'imagine, je pense que vous étiez dans la cinquantaine.
Début. Alors, c'était en 2013. Puis là, ça commence à faire son chemin. C'est que je commence à me former. Puis là, j'essaye de trouver des ressources. J'en trouvais pas. Il y avait des choses en groupe, mais j'étais tellement pas bien que je me voyais pas aller dans un groupe. Je cherchais vraiment une approche individuelle. Puis j'ai fini par joindre un groupe de méditation. Puis j'ai commencé à étudier là-dedans. Et en 2017, c'était clair que je voulais aligner ma vie sur mon âme. C'est à partir du burn-out. Puis là, j'ai dit, je veux faire quelque chose qui va m'animer. Et j'ai parti Métaconscience. Je suis allée me faire former aux États-Unis et c'était mon cœur qui était en avant.
Ouais.
Ce n'était pas... J'ai pas dit, « Oh, je vais me partir une entreprise. » C'est pas fait comme ça. Donc, j'ai suivi l'appel de mon cœur. Puis j'ai eu des rencontres déterminantes. J'ai déterminé, hey, ce que je préfère dans la vie, là, puis j'en ai fait des choses, j'étais consultante, professionnelle, gestionnaire, enseignante, et là, j'ai rencontré des gens, puis là, j'ai réalisé que ce que j'aimais faire, là, pour moi, mon burn-out, là, ça m'a servi à dire, qui suis-je?
Ça a été un révélateur.
Complètement! Parce que c'est vrai que c'est dur, sauf que tu es en face de toi, puis tu dis... « Hey, c'est-tu ça, la vie? »
Il n'y a plus d'autres artifices, plus d'autres bruits pour cacher cette vérité-là.
Exactement. Puis avec la pleine conscience, ça m'a vraiment saisi. Puis là, j'ai fait, hey, moi, j'ai cherché de l'aide, j'en ai pas trouvé. Pourquoi j'amènerais pas ça dans les organisations? Parce qu'il y a de la souffrance. Mmh. Et c'est de là qu'est partie Métaconscience.
Et on parlait des belles rencontres. Oui. Y a Audrey, je crois, qui a croisé votre chemin ou que vous connaissiez peut-être déjà.
Bien, ça s'est fait de façon, encore une fois, tellement naturelle. Il y en a qui diraient, il y a eu des synchronicités.
Mm.
Bien, j'allais chez le père d'Audrey dans des groupes de méditation. Mm-hmm. Puis à chaque fois, je sortais de là. Tu sais, je me disais, bon, bien, je vais y aller parce que c'était quand même 45 minutes de route.
D'accord.
Puis là, je me disais, quand ça sera plus le fun, là, c'était le soir, là, j'irai plus.
C'est un bon indicateur, ça.
Ben, j'y allais à toutes les semaines, puis c'est comme ça que je l'ai rencontré. On a fini par faire des projets de bénévolat ensemble pour faire connaître le centre et tout ça. Et je l'ai trouvé tellement sage pour son âge. Elle est magnifique.
Quel âge a-t-elle?
Elle a 28 ans.
Ah,
et puis ça veut dire que...
Tu sais, il y a quelques années.
Oui. Elle avait comme 25, puis elle faisait ses études en psychologie. Puis évidemment, moi, je suis revenue de ma formation. J'étais tellement enthousiaste que j'en ai parlé. Puis à un moment donné, elle dit, « Sais-tu, ça m'intéresse. »
Mais on va aller la rencontrer, Audrey. On va lui... On va la rencontrer, elle est au téléphone. Bonjour, Audrey.
Bonjour.
Enchantée, bienvenue à Au fil du temps. Donc, une petite discussion intergénérationnelle ensemble.
Oui.
l'idée comme ça de se lancer en affaires avec quelqu'un qui est d'une autre génération, donc vraisemblablement, on parle de groupe où votre père était, donc dans les âges à peu près de votre père ou?
Exactement. Lucienne est dans le même âge que mon père.
Oui, c'est vrai.
Vu comme ça fait bizarre, mais tu vois, j'ai jamais perçu Lucienne comme si c'était... Je la vois comme une approche comme plutôt si elle avait mon âge.
Mm-hmm. Mm. C'est plus les âmes qui se rencontrent.
Absolument.
Exactement. Mm-hmm. Okay.
Donc, on parle vraiment de liens intergénérationnels. Alors, je serais curieuse de vous entendre sur quel... Là, on parle de que les âmes se retrouvent. Donc, il y a des similarités dans les approches, dans les valeurs et autres. Mais il reste que c'est quand même une lecture du monde, notre génération, la culture à laquelle on appartient. Donc, je serais curieuse de vous entendre l'une après l'autre sur la richesse que ça amène et peut-être aussi de rire un petit peu de certains biais que ça peut emmener ou des fois d'incompréhensions culturelles que ça pourrait entraîner. Lucienne?
Audrey, je veux dire, c'est quelqu'un de... Elle ressemble à un ange, en fait. Il faudrait aller sur metaconscience.ca, là, la voir.
Bien
vraiment...
amenée.
Non, mais elle dégage quelque chose de... Tu sais, c'est sûr qu'elle va rigoler, là, pour, tu sais, de sa génération, puis qu'avoir du plaisir pour elle, je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on a eu vraiment des belles rencontres, puis on a aussi... ce que j'aime d'Audrey, c'est oui. Audrey, je lui soumets des projets, c'est oui.
Mm-hmm.
On est allé dans des conférences aux États-Unis, on partageait la chambre ensemble, puis ben, évidemment, à force de passer du temps, tu dis, tu sais, ça te dérange pas, toi, que je pourrais passer pour ta mère?
Mm-hmm.
Puis elle dit, ben non, c'est peut-être toi que ça te dérangerait. Ben j'ai dit, c'est sûr que j'y ai pensé, tu sais, mais j'ai dit, moi, je trouve ça super parce que, je veux dire, il y a l'enthousiasme, il y a oui, il y a des idées, il y a le désir d'apprendre. Hey, moi, là, je carbure à ça. Ça fait que j'ai l'impression qu'on est ensemble puis qu'on se nourrit l'une et l'autre.
Audrey, donc, bonjour, Madame Lange. Donc, comment qualifieriez-vous Luciane?
Oui, en fait, travailler avec Luciane, elle a tout ce bagage-là. Fait que, c'est comme aussi un mentor pour moi qui me guide, qui m'aide aussi à apprendre. Comme Luciane a dit, j'adore apprendre. Donc, elle est vraiment là aussi pour me soutenir. Puis j'ai l'impression qu'on s'apporte mutuellement à chacun. J'ai une petite anecdote super rigolote. On était à San Francisco ensemble, puis un truc vraiment de génération. Je lui ai dit, ouais. Go, on s'en va faire de la trottinette.
Oui.
Et là, elle me dit, ben là, je peux pas. Et elle a été un peu fermée à l'idée. Puis j'ai dit, non, si on va faire de la trottinette, tu vas voir, ça va être super cool. On va se promener dans San Francisco, on va voir. Puis elle a dit oui. Elle aussi, c'est une oui, là. Elle dit oui assez rapidement. Puis avec toute l'entrain que j'avais, ça lui tentait de venir. Puis on est parti en bas, à de l'hôtel. On est allé faire... finalement, ça a donné qu'il n'y avait plus de trottinette, donc ça allait faire du vélo. Mais on se sort chacun un peu de nos zones de confort. Que ça soit au travail ou à l'extérieur, on s'apporte ça mutuellement. Puis c'est qu'est-ce qui nous fait grandir, puis c'est extraordinaire.
Nous allons poursuivre la discussion Audrey et Luciane après une petite pièce musicale que j'ai choisie en hommage... En fait, c'est notre recherchiste Catherine que je salue qui a proposé cette pièce en hommage à votre mission qui est la conscience. Donc, une chanson qui s'appelle « Conscience » de la gourou Marie-Mé.
L'agréable mensonge t'apporte des sorties quand la vérité te range. Je suis
C'était Conscience de Marie-Mé. Je disais à la blague, la gourou Marie-Mé, mais je pense que les artistes ont une grande influence dans leur ouverture à parler de plus en plus de la santé mentale. Et j'ai découvert cette semaine une série qui s'appelle Parfaitement imparfait à tout.tv, où justement Marie-Mé parle de certains impacts d'événements de sa vie sur la santé mentale avec un jeune qui a souffert d'intimidation à l'école et autres. Donc, c'est une série, je pense, intéressante pour faire face à ça, l'impact de la santé mentale, et je pense que la pleine conscience est une manière de calmer ce fameux mental envahissant.
Absolument, absolument. Moi, c'est pas, tu dis pas dans cinquantaine, alors que tout le monde planifie sa retraite. Toi, je veux dire, moi, quand je suis arrivée, puis j'ai parti mon organisation dans ma famille, ils m'ont regardé bizarre, hein?
Mais ouais, parce qu'ils s'attendent là, que tu prends le chemin de la retraite tranquillement. Là.
Alors que moi, j'ai une soif de vivre immense, immense, et de contribuer. Puis la différence, c'est que quand je sors de rendez-vous avec mes clients que j'accompagne, parce que je fais de l'accompagnement dans les organisations et individuellement, je sors puis je fais... Wow, je suis payée pour faire ça. Je suis tellement en gratitude, là. Et ça, il n'y a pas de prix à ça.
Faire œuvre utile.
Oui.
On a parlé en premier bloc de la trottinette, tu sais, comme exemple un peu intergénérationnel de sortir de sa zone de confort, ce qu'une personne plus jeune, des fois, peut nous emmener à découvrir, et du partage, de l'autre côté, du bagage, là, bagage positif que tu avais à offrir à Audrey. Mais, tu sais, je suis quand même curieuse de voir là, comment ça peut fonctionner en affaires avec quelqu'un d'une autre génération. Parce que, tu sais, tu œuvres en organisation. Mm. J'ai glissé au-dessus, Luciane, parce qu'on se connaît.
Oui.
Il reste qu'il y a beaucoup de gestionnaires qui nous disent que c'est pas évident, là, les milléniaux, les gens de la génération Y, que c'est pas nécessairement toujours évident, que la notion d'apprentissage est là, mais que de reconnaître le bagage du plus senior au lieu de prendre ça personnel et de le voir comme une occasion de mentorat, justement. Mm. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui témoignent là, que c'est pas évident.
C'est pas évident en sens que... moi, je pense que d'abord, j'aurais eu plus de difficultés auparavant, je crois, de par l'intégration de la pleine conscience dans ma vie. Ben ça me fait voir ma vie complètement autrement, parce que ce que je sais, puis c'est scientifiquement là, prouvé, c'est que ce qui importe, c'est ce qui se passe ici, maintenant. Que le futur et le passé, c'est notre cerveau qui fabrique ça. Mm-hmm. Donc, le bien-être, il est dans le présent. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec Audrey, on a été élevés, entre guillemets, mm-hmm. à la même chose. Donc, on se retrouve beaucoup dans le moment présent. Et nos systèmes de sécurité ou les systèmes dans lesquels j'ai évolué dans ma vie, bien évidemment, c'est pas du tout les mêmes systèmes que les siens. Et c'est parfait.
Bien, je suis curieuse d'entendre Audrey sur ce même sujet. Quand Luciane dit des systèmes différents, comment toi tu le vis, ça?
Moi, je le vis assez bien. Je suis quelqu'un qui est très flexible. Je pense que c'est une de mes qualités premières, la flexibilité. Donc, mm-hmm. je vais toujours un peu m'adapter à la situation avec laquelle que je suis. Donc, pour moi, l'âge qu'on en parle, c'est assez... c'est pas une barrière pour moi. Donc, j'ai jamais vu et perçu cette différence. Puis, quand on me la nomme, des fois, je suis comme, oh, c'est beaucoup cette différence d'âge. Effectivement, elle pourrait être ma mère
oui.
ou mon père. Mais en même temps, je le réalise pas. Parce que quand on est vraiment, on travaille ensemble, c'est comme si on était un, on avait la même vision, la même mission. Donc, il y a comme pas cette... elle a cet âge-là, moi, c'est cet âge-là. Donc, moi, je dois contribuer moins parce que je suis peut-être plus jeune, elle plus parce qu'elle est plus vieille. Mm-hmm. Fait que c'est comme quand on est ensemble au travail, on est au même niveau. Il y a pas de supériorité et d'infériorité. Puis c'est la raison pour laquelle j'aime travailler avec Luciane, mm-hmm. parce qu'on est capable de s'apporter sur la même longueur d'onde et sur le même niveau, je pourrais dire.
Ben, si j'avais à t'interroger sur les gens de ta génération, parce que ce que je disais à Luciane, c'est que on entend justement des gens dire que c'est pas toujours évident l'ouverture d'esprit chez les plus jeunes de se faire remettre en question, tu sais, des fois de prendre ça personnel, un conseil qui vient de quelqu'un de plus âgé. Mais est-ce que tu aurais peut-être un petit conseil en terminant là, pour les gens de ta génération pour s'ouvrir plus à l'expérience d'un mentor?
Oui, moi, ce qui m'a aidée, c'est la pleine confiance et le travail personnel. C'est sûr que de rien prendre personnel avec, peu importe que ça soit un rôle patron ou ton ami qui dit quelque chose, puis à dire, peut-être que la personne a raison. Fait que vraiment d'apporter d'ouverture, puis de peut-être prendre une pause, puis de faire une introspection. Est-ce que la personne, ce qu'elle me dit, ça fait du sens ou non? Ça se peut que ça ne veut pas dire que tous les conseils qu'on reçoit, on doit les accepter et qu'ils sont bons, mais des fois, ça peut nous permettre d'aller peut-être plus en profondeur à savoir, peut-être que la personne, finalement, elle a raison, puis peut-être que je peux m'améliorer. Fait que c'est vraiment peut-être de prendre un petit moment de recul. Des fois, c'est pas facile. Ça peut être fait aussi, pas nécessairement devant la personne, toute seule, en recul. Qu'est-ce que je fais avec ce qu'on vient de me dire? Est-ce que j'ai envie? C'est comme ça, en fait, qu'on grandit. Quand on reçoit une remarque, c'est pas de la prendre personnelle, puis d'avancer avec ce qu'on s'est fait dire. Pour moi, c'est de l'évolution, puis c'est de l'apprentissage.
Audrey et Luciane, c'est déjà terminé. Ça passe tellement vite. On était tellement dans le présent que j'invite nos auditeurs à découvrir metaconscience.ca et découvrir votre parcours et tous les services que vous offrez. Merci, mesdames.
Merci.
Merci.
Au plaisir.
Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
Je vois la mécanique au-delà du banal. Très souvent, je panique à l'idée d'avoir mal. Si tout est méthodique, même l'instinct animal. Quand c'est trop catholique, c'est pas original. Je vends le pathétique au prix de l'idéal. Semble orchestral, mais souvent je panique de façon magistrale. Tout est automatique pour un cœur qui s'emballe. Je passe de l'hystérique à la pierre tombale pour une poignée de fric ou de subliminal. Moi je renvoie mes clics et mes claques à la malle. Si les fleurs en plastique posent égal à égal.
C'était « La panique » de Catherine Major, issue de son 5e album « Carte mère ». Catherine Major est une auteure, compositrice, musicienne et interprète qui a récolté de nombreux prix au fil des ans, dont le prestigieux coup de cœur de l'Académie Charles Cros, le prix Félix Leclerc ou encore un Jutra pour meilleure musique de film. En tant qu'auteure-compositrice-interprète, elle a présenté à ce jour 4 superbes albums et spectacles un peu partout au Québec et à l'étranger quand nous pouvions encore se réjouir de cet art. Et son 5e album, Carte mère, a vu le jour le 15 mai dernier en pleine pandémie. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Hey, comment c'est de mettre au monde un album en pleine pandémie?
C'était évidemment hors de l'ordinaire, mais en même temps, il y a des choses pires. Je pense que c'est sûr que ça a pas, c'était pas fait dans un contexte, le contexte idéal, mais je pense que l'année n'a pas été idéale pour personne. Mm-hmm. Par contre, comme je dis, faut toujours relativiser dans le sens où je peux expliquer, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer, j'ai la chance d'avoir pu sortir ce disque-là déjà. Même s'il n'y a pas eu la place que j'aurais voulu qu'ils prennent avec un parcours plus normal, mm-hmm. mais ça reste que je fais le métier que j'aime, puis que mes enfants vont bien, et puis faut ramener tout à ça. Donc c'est ça, c'était pas idéal, mais en même temps on a fait avec.
Quatre enfants. Et je vous avoue, Catherine, que je connaissais assez peu votre parcours de vie. Étant donné la densité de vos textes, la profondeur, c'est drôle, j'avais pas imaginé que vous étiez quelqu'un qui avait 4 enfants. C'est drôle, mais ça m'a fascinée. Puis en même temps, en sachant cette information-là, ça m'a paru encore plus évident comment on ne peut interpréter des choses aussi profondes qu'après avoir vécu une aussi large palette d'émotions. Donc, j'étais curieuse de vous entendre justement sur la maternité 4 fois plutôt qu'une et votre œuvre.
Ben, c'est sûr que c'est intimement lié, là, dans le sens où je me rappelle du choc d'avoir eu ma première fille, d'avoir dit par la suite, dans l'année qui a suivi, me dire à moi, mon Dieu, c'est fou comment j'étais quelqu'un et je suis carrément une autre personne. Simplement, c'est que le premier enfant nous fait prendre conscience de tellement de choses. Et puis après, ben c'est juste de la répétition. Puis c'est beaucoup de restructuration aussi d'horaire et de...
Oui.
Et de, je dirais pas de sacrifice, mais oui, un peu. Mais en même temps, ils sont pas douloureux puisque c'est l'amour qui est à la base de tout ça.
Oui.
Mais c'est certain que plus c'est une charge émotive vraiment présente et très grande dans ma vie et mes enfants, on est carrément une tribu chez nous. Mm-hmm. À 4, c'est rendu quand même une grosse famille. Donc, ça nourrit l'inspiration à tous les moments. Je peux pas faire fi de ça. Là, je peux pas le mettre de côté pour être interprète ou être compositrice. C'est sûr que tout ça nourrit mon travail, en fait.
Et justement, vous dites ça m'a transformé la maternité. Et de vous-même, je lisais que vous n'écrivez pas sur la pluie et le beau temps. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez riche, d'assez dramatique là, dans ce que vous faites. Et tout ce contraste-là avec le quotidien d'élever des enfants, est-ce que le fait d'avoir des enfants, on en vient qu'à relativiser, par exemple, sur la profondeur qu'on met dans les choses ou plutôt je sais pas comment dire, pas l'inquiétude, mais comment ça nous amène à relativiser puis comment ça a transformé votre parcours comme artiste?
Ben en fait, c'est sûr que ça nous amène à relativiser. Là. Moi, c'est sûr que mes enfants me ramènent sur Terre tous les jours. Je peux pas décoller très loin sans... De toute façon, à la base, je suis une personne qui est assez terre-à-terre, étrangement, par rapport au tempérament plus volatile qu'on connaît des artistes. Moi, j'ai toujours été quelqu'un d'assez groundé. Puis je pense que c'est une balance entre les deux dont j'ai besoin pour être bien, c'est-à-dire oui, l'aspect artistique, l'aspect scénique, où carrément on décolle dans la, quand on fait un spectacle, mm-hmm. on est nous-mêmes, mais on est quand même dans une autre sphère. Et l'aspect des enfants au quotidien qui me ground, l'école, la garderie, l'organisation, la bouffe, juste faire des repas tous les jours, équilibrer. Je suis une personne hyper exigeante, donc il n'y a pas une sphère de ma vie que je... Il n'y a pas un aspect de ma vie que je laisse de côté. Fait que c'est sûr que c'est ça. C'est prenant. Puis en même temps, ben, pour répondre à la question, c'est on relativise grâce à ces enfants-là qui sont dans notre vie, puis qu'on a fait, puis qu'on doit mener jusqu'au bout d'une autonomie, en fait. Parce qu'on se dit, mon Dieu, tant que tout ça va... Tu sais, on se rend compte à quel point tout va vite, en fait.
Oui.
Tout va vite. Moi, j'ai accouché la première fois il y a 11 ans, mais je veux dire, c'est hier, là, puis j'ai accouché la dernière fois il y a 18 mois.
Félicitations.
C'est encore plus hier, donc, mais elle va avoir 2 ans bientôt, ma dernière, donc, tu sais, on dirait que ça met une lumière sur le fait que la vie passe vraiment vite, puis que oui, faut pas s'en faire, faut, tu sais, oui, la pandémie, c'est vraiment, vraiment... C'est vraiment essoufflant. Là. On n'est plus capable. Puis on a vécu des moments à droite, à gauche qui étaient plus difficiles. Mais tu sais, en même temps, c'est ça que je disais par rapport à la sortie de mon album. C'est réellement, ma situation n'était pas difficile. Oui, elle était moche, mais je veux dire, j'ai pas vécu l'enfer là, par rapport à d'autres gens qui souffrent de toutes sortes de problèmes. Tu sais, tant qu'on est en santé, puis qu'on est capable de se nourrir, puis en plus qu'on puisse nourrir culturellement, en plus, ben c'est le top, là, tu sais.
Non, mais ça, c'est un beau contraste dans le sens que quand j'écoute votre musique, j'aurais eu tendance, comme je vous dis, je connaissais pas votre parcours personnel, à imaginer quelqu'un qui était plus justement dans une forme de souffrance, de, tu sais, tellement les textes sont forts, c'est juste qu'on vient d'entendre... la panique ou d'autres pièces. Et là j'entends vraiment quelqu'un complètement groundé dans le quotidien. Je trouve ça un beau contraste.
Ben, en fait, l'art, c'est une chose. Hein. Mm-hmm. Oui, c'est assez personnel ce que je chante. Ben là, pour Cartemer, c'est sûr que la plupart des textes sont faits par mon amoureux. Oui. Mais bon, quand il écrit, évidemment, qui met les textes dans ma bouche à moi, c'est sûr que... C'est évidemment des choses que j'ai vécues. Si on prend ma sœur, je crois d'ailleurs que vous allez la jouer après l'entrevue, mais
absolument.
Cette chanson-là, c'est vraiment de ma sœur dont on parle, je veux dire, même si c'est lui qui l'a écrit. Donc, tout ça pour dire, je crois que les sujets, nous, dans notre vie, on n'est pas... ça arrive qu'on boive une bière au soleil et puis qu'on soit léger. Ça arrive qu'on parle de météo aussi, mais... Je veux dire, il reste que pour que la musique... C'est sûr que moi, à la base, je compose des musiques qui sont denses, qui sont très... et donc, les textes, ils peuvent pas en être autrement non plus. Tu sais, je trouve pas ça intéressant de chanter des trucs qui viennent pas me chercher profondément, que ce soit dans le bonheur, dans la peur, dans l'observation, dans la tristesse. Mais ça fait pas de... Oui, ça fait de moi je suis une personne intense, hein, si on veut, j'haïs ce mot-là, mais tout le monde, on n'a pas trouvé d'équivalent encore, mais il reste que je suis pas une personne amplement angoissée, pas du tout, en fait, au contraire, en fait.
Pourquoi, Catherine, vous dites vous haïssez ce mot-là, intense?
Parce que je trouve qu'il est pas... faudrait qu'on trouve un autre... Ben, intense. Je l'utilise moi-même, en fait, mais je trouve ça bizarre de qualifier quelqu'un d'intense. Je pense que les gens, des fois, on a un peu trop peur de la profondeur, en fait.
Oui.
Tu sais, la surface, moi, ça m'intéresse pas plus qu'il faut. Je veux dire, dans n'importe quel être humain, tu sais, puis dans l'art, on a souvent tendance à vouloir, ben pas souvent, mais ça dépend pour qui, mais je veux dire quand même l'art de masse, si on veut, ce qui passe à la radio commerciale de façon générale, pour donner un exemple, et ce qui passe en box-office de partout, même en cinéma et tout ça, ce ne sont pas nécessairement des films qui ont beaucoup, des films ou des musiques où le plus de profondeur, on a comme peur, des fois on fuit ça un peu, puis le mot profondeur est plus approprié, je trouve, que le mot intensité, en fait, c'est d'assumer d'aller là dans des zones qui font mal un peu ou qui font du bien ou qui vont chercher des vérités, qui vont faire de la recherche. T'sais. Moi, c'est ça qui m'attire, en fait. Puis je pense pas que c'est parce qu'on est intense. Intense veut dire, pour moi, est un peu péjoratif dans le sens où ça veut dire un peu hystérique, tu sais, mais j'ai rien d'hystérique. Oui, des fois à mes heures, mais...
Avec quatre enfants, je vous comprendrais.
C'est ça. Dans ma création, j'ai rien d'hystérique. C'est, en fait, j'aime les choses qui veulent dire quelque chose, puis j'aime quand ça demande un petit peu plus de recherche, pas de recherche, mais je pense, j'aime quand c'est pas si facile. J'aime pas quand c'est accessible d'un coup. Je me dis quand il y a deux, trois
plusieurs niveaux
derrière. Oui, deux, trois dimensions qu'on peut. Tu sais, la force d'une chanson, c'est quand on l'écoute la 500e fois, quand on l'aime, des fois on y trouve carrément d'un coup une autre signification parce qu'elle vient chercher quelque chose qu'on vit à ce moment-là. Alors, c'est fou. C'est ça qu'il faut que ça fasse. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui parle de surface, ça va difficilement là. Moi, pour moi, en tout cas, ça me touche pas. Voilà.
Mais j'aime ça que vous faites cette je veux pas dire mise en garde, mais c'est vrai qu'on entend souvent quelque chose de simple, pas compliqué, effectivement très intense, très compliqué, très au nerf de la vie, comme si on pouvait pas être complexe et complexe et pas compliqué. Oui.
Ben c'est ça, ben on l'est, on est comme ça les êtres humains, je veux dire, on est nuancés, là. Il y a mille tons de rouge, là, il y en a pas un, tu sais, donc on est fait comme ça, puis je trouve que c'est important dans l'art, en tout cas quand on est artiste, puis qu'on crée quelque chose, que ce soit dans n'importe quel milieu, la danse, l'art visuel, je pense que c'est important, peu importe ce qu'on crée, que ce soit senti et vraiment intègre et proche de... qu'on fasse réfléchir, en fait. Après ça, j'ai pas le mandat de... Je fais pas de leur engager, mais qu'on fasse quand même réfléchir, qu'on porte à la réflexion ou à l'émotion, du moins, tu sais. Puis je sais que moi, ce que je fais, je veux dire, je suis jamais passée à la radio commerciale de ma vie, tu sais, mais ça m'empêche pas de gagner ma vie, puis d'avoir plein de beaux projets. Mais c'est dommage, en soi, parce que je me dis, mon Dieu, mais les gens sont pas prêts à prendre ça si les radios commerciales ne le proposent pas. Ou c'est les radios commerciales qui... Mais tu sais, je suis pas la seule, là. Je veux dire, il y en a des plus accessibles que moi encore qui ne passent pas non plus. Donc, mais c'est pour dire que je trouve que c'est dommage qu'on réussisse pas à... Tu sais, pourquoi pas, tu sais? Pourquoi tout le monde peut pas se nourrir de ça? Pourquoi on ne peut pas diversifier les propos puis c'est ça.
Absolument. Absolument. C'est ce qu'on tente de faire à Canal M, de présenter toutes sortes de... Ben on est beaucoup dans la diversité, dans les parcours riches. Et j'ai une question que je veux absolument vous poser parce qu'elle me vient d'une de vos plus grandes fans. En fait, moi, je vous ai découvert par ma cousine, Patricia Gagné, qui souvent me disait à quel point vos chansons la touchent. Et elle était curieuse de savoir, tape dans ton dos, quelle était l'inspiration derrière cette chanson?
Ah, oui. Ben, écoutez, il y en a une précise. C'est justement, parce que c'est drôle parce qu'on en a parlé il y a quelques minutes, mais c'est ma première fille, Frédéric. Quand j'ai accouché d'elle et quand j'ai vécu ce moment-là, ses premiers jours et ses premières semaines-là avec elle, j'étais sous le choc, justement. Et ça vient exactement, j'étais sous le choc, un beau choc. Mais je me disais, mon Dieu, comment c'est possible d'aimer autant?
C'est fou, hein?
ouais, c'est vraiment fou. Puis, ça vient de là, tape dans ton dos, c'est vraiment, c'est en lui parlant à elle. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai composé le refrain à la base. La musique était faite, mais j'ai composé le texte du refrain qui disait, la tape dans le dos, en fait, ça voulait dire c'est la petite tape qu'on donne pour faire le row.
Ouais.
En fait, ça part de là. Et ça dit que je vais prendre soin de toi, je vais veiller sur toi. C'est ce que ça dit, le refrain. Et là, j'arrivais pas à trouver la tournure des couplets, et donc j'ai mis mon chum sur le corps. puis lui, il a écrit le texte sur ma mélodie qui était déjà là, mais il a fini le texte, en fait, il a écrit les couplets. Donc c'est ça. Ça vient vraiment de l'inspiration de mon premier enfant, de cette découverte d'amour-là et de besoin de dire que je vais la protéger. les petites heures, en fait, c'est ça, c'est le nombre d'heures qu'elle avait à ce moment-là, c'est-à-dire quelques jours, quelques semaines.
Oui, donc vous avez fait une création avec l'enfant, puis avec la musique.
Oui, ben c'est sûr, mais c'est toujours comme ça. J'en ai au moins une par enfant, hein, voire plusieurs. Mais ça a toujours été un album, un enfant, un album, un enfant. Ça va finir par se stabiliser. Je pense pas avoir un cinquième enfant. Là, j'ai viens d'avoir 41 ans. Mm-hmm. C'est bon. Puis j'ai beaucoup. Je fournis déjà pas comme j'aimerais fournir avec les sujets. Donc c'est ça, mais il reste que c'est sûr qu'ils sont présents au travers de tous mes albums, tous.
Catherine, c'est un grand plaisir d'avoir fait connaissance davantage avec votre univers, votre œuvre, et j'invite nos auditeurs à écouter maintenant Ma sœur, qui est sur votre dernier album, Carte mère.
Merci.
Un grand merci.
J'entends le bruit des feuilles qui pleurent. Quand le vent se prend d'un arbre qui meurt, je nous revois enfant, ma sœur, gamine contre le temps, la peur. J'entends le train des jours meilleurs. Quand le sang des veines brise nos cœurs et ceux de nos enfants, ma sœur, je peux pas faire autrement, j'ai peur. Ta main dans la mienne, tu sais, comme dans les photos de papa, et oublions tout ça. La peur n'existe pas, c'est une histoire ancienne, inventée par quelques renégats à qui on n'a pas dit à quoi pouvaient servir leurs bras. Mets ta main dans la mienne, tu sais, quand on suivait maman, on s'inventait la vie dans les fleurs de sa robe, et c'était beau comme ça, et c'était doux comme toi et moi, au fond des yeux de nos parents. Pourquoi faut-il que l'on oublie? J'entends la voix de Salomé. C'est une histoire ancienne, inventée par quelques renégats, à qui on n'a pas dit à quoi pouvaient servir leurs bras. Mets ta main dans la mienne, tu sais, quand on suivait maman, on s'inventait la vie dans les fleurs de sa robe, et c'était beau comme ça, et c'était doux comme toi. J'entends le bruit des feuilles qui pleurent.
C'était Ma sœur, une magnifique pièce de Catherine Major sur l'album Carte mère. Moi qui suis sœur 5 fois, je suis très touchée par cette chanson. Et sur la vidéoclip de Ma sœur, c'est la sœur de Catherine Major qu'on voit. D'ailleurs, Carte mère, corps et graphie, le spectacle sera en ligne dans la programmation officielle du FIFA, donc le Festival du film sur l'art, du 17 au 28 mars, donc très, très prochainement. Un grand, grand merci à Catherine Major, auteur, compositrice, musicienne et interprète, à Luciane Fabien et Audrey Parent, donc présidente et vice-présidente de metaconscience.ca. Vous pouvez découvrir leur travail. Remerciements immenses à notre équipe, comme d'habitude, Maurice Bolduc en régie, Catherine Bourderon à la recherche, qui nous fait un beau bonjour derrière le plexiglas, et à Louis Garon, chef d'antenne. La semaine prochaine, nous parlons des aidants, les aidants naturels, des gens qui ont été très, très, très impliqués ces derniers temps pendant la pandémie. Et grâce à eux, en fait, leur travail est vraiment admirable. On reçoit notamment Nathalie Désiel, la directrice du regroupement, pour en discuter. Et une rencontre que j'espère, ma foi, très heureuse, Louise Portal, ce sera sûrement du grand bonbon. J'ai déjà eu un livre de Louise Portal qui m'a été offert par mon père. Il avait écrit sur la première page « Quand tu auras fini ce livre, nous aurons voyagé ensemble ». Et je pense que c'est la plus belle façon de parler de la transmission familiale. Donc Louise Portal nous parlera entre autres de son livre « Seules, ces femmes que j'aime » aux éditions Druides. Et voilà une 38e émission d'Au fil du temps. Toujours un plaisir d'être au micro d'Au fil du temps avec vous, que ce soit ici à Canal M, sur canalmvuesetvoix.com ou encore à CKAC. Et vous savez qu'avec CKVL, mon Dieu, on est vraiment rendu dans un autre univers, on se projette ailleurs. Avec le printemps qui se réveille comme ça, j'ai envie de vous dire, allez marcher, allez prendre des belles marches et écoutez-nous. Nous sommes présents sur les plateformes de balado diffusion, Apple Balado, Google Play Music et Spotify, et tous les épisodes, autant d'Au fil du temps que ceux des autres émissions de Canal M sont disponibles. Alors, téléchargez-nous, marchez avec nous et... quand vous aurez terminé ces émissions, nous aurons voyagé ensemble, chers auditeurs. Une excellente semaine à vous. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!